Radio France Internationale, 14h à Paris, midi en temps universel.
Florent Guignard.
Bonjour et bienvenue dans RFI Midi, une heure d'information avec une première demi-heure consacrée à l'actualité internationale avant Afrique Midi. Chronique, reportage, invité. On commence avec le journal à la une. La tempête sur l'Europe de l'Est. De très fortes inondations sont attendues ce week-end. Jamais vu depuis des décennies, redoutent les services météo. Nous irons dans quelques instants à la frontière entre la Pologne et la République tchèque. Des funérailles presque nationales aujourd'hui en Turquie pour la militante turco-américaine tuée au début du mois en Cisjordanie par l'armée israélienne. Donald Trump, héros malgré lui des réseaux sociaux après ses accusations ridicules contre les Haïtiens, mangeurs de chats et de chiens. Et puis la grande parade à Paris après les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Les athlètes vont défiler cet après-midi sur les Champs-Élysées. Nous serons en direct dans ce journal avant de retrouver un peu plus tard l'un des champions français, la médaille d'or en BMX, Joris Daudet.
RFI Midi.
À suivre encore le journal des sports, un reportage aussi au bord du lac Titicaca. On compte les crevettes pour mesurer la pollution. Et puis Molière, ressuscité sur scène.
RFI à Paris, 89 FM.
L'Est de l'Europe, sous des trombes d'eau, c'est un événement météo majeur, inédit depuis des décennies selon les prévisionnistes qui s'attendent à ce qu'il tombe ce week-end jusqu'à 400 litres d'eau par mètre carré, principalement en Autriche, en République tchèque, en Slovaquie et en Pologne. La Roumanie n'est pas non plus épargnée avec au moins 4 morts annoncés ce matin dans des inondations dans l'est du pays. Alors on va voir maintenant quelle est la situation précise à la frontière entre la Pologne et la République tchèque où on retrouve Adrien Sarla. Vous êtes à Vaubich. Les habitants craignent d'importantes inondations.
Oui, c'est ça. Va oublier que pour l'instant, tout est sous contrôle, malgré des pluies ininterrompues depuis hier et de fortes bourrasques qui font quand même un petit peu peur ici, sachant que les villes aux alentours sont déjà inondées. Les habitants ont été invités, bien entendu, à observer la plus grande prudence, puisque la ville fait partie des 4 régions polonaises placées en alerte maximale, pluie et inondation. En effet, en attendant, comme vous l'avez dit, on attend par endroit 3 à 400 litres d'eau par mètre carré. Et la situation, eh bien, elle rappelle des mauvais souvenirs aux habitants de la région, puisqu'en 1992, ils avaient connu ce qui est resté dans l'histoire polonaise comme l'inondation du millénaire. À l'époque, des pluies torrentielles semblables à celles de Boris, que l'on attend ce week-end, eh bien, avaient forcé des milliers de Polonais à fuir leur maison, provoquant d'énormes inondations. Mais les pouvoirs publics affirment aujourd'hui avoir appris de leurs erreurs. Depuis hier, les pompiers, l'armée et les sauveteurs sont sur le pied de grue pour porter secours à d'éventuelles victimes. Déjà, 2 localités polonaises ont pu être évacuées à la frontière tchèque dans la nuit. Et les météorologues préviennent que le pire reste à venir ce week-end.
Adrien Sarla, à la frontière entre la Pologne et la République tchèque, des inondations et des glissements de terrain. Il y en a aussi depuis plusieurs jours en Asie du Sud-Est, où le typhon Yagi fait de gros dégâts et des morts, plus de 300 morts dans tous les pays qu'il a traversés, dont 33 morts en Birmanie. Le chef de la junte militaire a appelé aujourd'hui à l'aide internationale. Et c'est assez rare pour le souligner. Plus de 230 000 personnes ont dû abandonner leur maison face à la montée des eaux. Une bombe israélienne a frappé une maison à Gaza au milieu de la nuit. Plusieurs familles y étaient réfugiées. 11 personnes ont été tuées, selon un bilan annoncé tout à l'heure par la défense civile palestinienne, alors que le ministère de la Santé du Hamas à Gaza fait état de 64 morts de plus en 24 heures. 64 personnes tuées par l'armée israélienne. Une armée qui tue aussi en Cisjordanie. L'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, a déploré hier la mort d'un employé. Une première depuis plus de 10 ans. L'armée israélienne en Cisjordanie a aussi tué, on s'en souvient, le 6 septembre dernier, la militante américano-turque Aysenur Ezgi Egi, Tu es d'une balle dans la tête et ces funérailles avaient lieu ce matin en Turquie, en présence d'une foule nombreuse. On retrouve en direct d'Ankara Anne Andlauer. Anne, les autorités turques ont encore tenu ce matin à dénoncer la mort de leurs compatriotes.
Oui, le vice-président de la République, le ministre de l'Intérieur, celui de la Justice, celui des Affaires étrangères, le président du Parlement, mais aussi les chefs de plusieurs partis d'opposition, ils étaient tous rassemblés aujourd'hui sous un grand drapeau turc devant le cercueil, lui-même ceint d'un drapeau turc. Le président du Parlement, Numan Kurtulmuş, a prononcé un discours bref mais véhément. Il a parlé d'un jour de grande peine, mais aussi d'un jour de grande colère pour la Turquie. Il a décrit Ayşe Nuriyegi comme une martyre nationale, comme un symbole de la cause palestinienne, qui est aussi, a-t-il ajouté, une cause nationale de la Turquie. Ce n'est pas seulement le crime de quelques soldats israéliens, a-t-il poursuivi. C'est le crime d'un État terroriste et de certains États complices qui soutiennent l'État terroriste. L'officiel turc s'en est pris sans le nommer au président des États-Unis, qui avait parlé dans un premier temps d'un accident, d'une balle qui aurait ricoché sur le sol. Le corps de la jeune femme avait été autopsié une première fois par des médecins palestiniens qui ont conclu un tir direct des forces israéliennes. Une seconde autopsie a été pratiquée hier en Turquie dans le cadre d'une enquête pour crimes contre l'humanité confiée au parquet d'Ankara.
Anne Andlauer en direct d'Ankara, funérailles aussi au Pérou. Aujourd'hui, funérailles nationales pour l'ancien président Alberto Fujimori. Malgré sa condamnation pour crime contre l'humanité, des funérailles également en Ouganda, les funérailles de l'athlète Rebecca Cheptegei qui avait couru le marathon à Paris, tuée à son retour des JO par son mari. On l'évoquera dans Afrique Midi, c'est dans un peu moins d'une demi-heure maintenant. RFI, les 14h07 à Paris, les États-Unis temporisent. Joe Biden, le président des États-Unis, après sa rencontre avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, n'a pas annoncé de livraison de missiles longue portée à l'Ukraine comme le réclame Volodymyr Zelensky. Les États-Unis encore avec la campagne présidentielle à moins de 2 mois du scrutin. Aujourd'hui, Donald Trump est la risée des réseaux sociaux. Après ces accusations contre les migrants haïtiens qui mangeraient, selon lui, les chats et les chiens, Oriane Verdier. They're eating the dogs.
They're eating the cats. Sur les réseaux sociaux, les vidéos défilent, jouant sur les déclarations de Donald Trump. Durant le débat télévisé de mardi dernier, le candidat républicain a affirmé que les migrants haïtiens de la ville de Springfield mangeaient les chiens et les chats des habitants. Sur la toile, donc, les uns postent des chansons moqueuses, les autres des photos de leurs chiens en hot-dog. Mais pour les militants pro-Trump, on est loin de la blague. La rumeur agite la sphère d'extrême droite depuis plusieurs jours. Elon Musk présente son allié Donald Trump en défenseur des animaux. Et ce dernier a réitéré ses attaques contre les Haïtiens hier. Il les traite d'assassins et terroristes et accuse sa rivale démocrate Kamala Harris de vouloir transformer les États-Unis en camp de réfugiés. La Maison-Blanche a de son côté dénoncé une théorie conspirationniste aux racines racistes. Face à l'emballement autour de ces déclarations, la police de Springfield a dû annoncer officiellement qu'il n'existait pas d'informations crédibles sur des animaux de compagnie maltraités par la population immigrée.
Oriane Verdier, un mot de politique française dans ce journal avec une déclaration de Marine Le Pen lors de la rentrée parlementaire du RN. Elle appelle à une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale le plus tôt possible. Mais l'actualité française aujourd'hui, c'est surtout la grande parade, le grand défilé sur les Champs-Élysées des athlètes français qui ont participé aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Les bénévoles aussi vont défiler avant un grand concert Place de l'Étoile en haut des Champs ce soir. On retrouve sur place Antoine Gallen. Ça se passe comment, Antoine, autour de vous ?
Eh bien, l'ambiance est particulièrement festive. Je suis à quelques dizaines de mètres de l'estrade où les athlètes de l'équipe de France et les bénévoles vont défiler. C'est sur ce tapis rouge qu'ils vont saluer le public. 70 000 personnes sont attendues pour les applaudir, presque l'équivalent d'un stade de France. Alors il y a de l'ambiance évidemment, mais aussi de l'impatience. Je discutais à l'instant avec un supporter de l'équipe de France qui a posé ses congés pour voir les Jeux et il m'a dit à quel point il avait hâte que la cérémonie commence, car on vit ça qu'une fois dans sa vie. En tout cas, pour l'instant, les gradins se remplissent au rythme de la musique. On a entendu par exemple la la musique officielle des Jeux ou encore celle de Philippe Catherine. Le premier cortège avec les mascottes, les bénévoles et les organisateurs défilera dans 2 heures avant de laisser la place aux athlètes pour un dernier au revoir.
Antoine Gallen en direct des Champs-Élysées. On va reparler de cette grande parade dans quelques minutes avec notre invité, l'un des médaillés d'or français, le champion de BMX, Joris Daudet, qui défilera donc cet après-midi sur les Champs-Élysées. Suivre également dans ces 20 prochaines minutes, avant Afrique Midi, un reportage sur les rives du lac Titicaca où les habitants surveillent la qualité de l'eau en comptant les crevettes. Serge Trigano, l'ancien président du Club Med, sera dans la chronique Transport International. Et puis Molière au théâtre, Molière héros d'une pièce de théâtre qui rend hommage au plus célèbre dramaturge français. Mais d'abord les sports. Le journal des sports, bonjour Christophe Jousset.
Bonjour Florent.
Et du foot avec le retour de la Ligue 1, le championnat de France, qui avait été entre parenthèses pour des matchs internationaux. Christophe, c'est la 4e journée de Ligue 1 qui se joue ce week-end.
Oui, une journée à marquer d'une pierre blanche pour les Verts. Saint-Etienne a enfin gagné un match ce vendredi soir. Courte victoire 1-0 sur Lille. Tout premier but et tout premier point pour les Stéphanois qui sont revenus en Ligue 1 cette saison. La journée se poursuit aujourd'hui avec 3 rencontres. Il y aura PSG-Brest dans la soirée, Auxerre-Monaco juste avant et à 17h temps universel, les voisins de la Côte d'Azur, Marseille-Nice. Marseille invaincu à ce stade fait face à une équipe où un Égyptien vient d'arriver. Il s'agit de Mohamed Abdelmonem, ex-défenseur international d'Al Ahly. Il a joué 20 minutes avant la trêve. Il pourrait être titulaire cette fois. Son directeur sportif Florian Maurice le sent prêt.
À 25 ans, je pense que c'est le bon timing. D'autres joueurs sont arrivés beaucoup plus tôt, Gérard Égyptien. Ça n'a pas toujours fonctionné en Europe, parce que bon, ils vivent dans un contexte vraiment très particulier, avec une ambiance extraordinaire, des clubs extraordinaires. Mais je pense que c'est l'âge parfait pour lui. Quand vous l'entendez discuter et parler, on sent beaucoup de maturité, beaucoup de tranquillité. On a reçu beaucoup, beaucoup de WhatsApp, de SMS, de journalistes égyptiens. Donc on a senti énormément, énormément de choses qui se passent derrière le recrutement de Mohamed. Mais c'est surtout le joueur qu'on observe. Voilà. Et nous, on a vu un joueur qui était en grande capacité à pouvoir s'intégrer dans un championnat de France qui demande beaucoup, beaucoup de choses pour les défenseurs. En plus, il a un jeu de tête qui est très performant et une qualité aussi sur le plan technique qui permettra à l'équipe d'avoir une ressortie de balle intéressante.
Et je corrige l'heure du coup d'envoi à Marseille-Nice, c'est à 15h, temps universel.
Christophe, on joue au foot aussi ailleurs en Europe, en Angleterre notamment.
Et notamment avec les clubs en forme de ce début de saison, Manchester City et Liverpool, qui jouent à domicile dans moins de 2 heures et qui cherchent tous les deux une 4e victoire en 4 jours. Journée. Pour City, ce sera face à Brentford, dernier adversaire vainqueur à l'Emirates en championnat, c'était il y a près de 2 ans. Pour Liverpool, ce sera face à Nottingham Forest en Espagne. Le Real Madrid est en déplacement chez la Real Sociedad. Et puis en Allemagne, alors que le Borussia Dortmund est en tête suite à sa victoire 4-2 hier soir face à Heidenheim, le Bayern Munich rend visite à Kiel et le Bayer Leverkusen joue à Hoffenheim.
De l'athlétisme, Christophe, à Bruxelles.
Les finales de la Ligue de Diamants, 2e et dernier jour, avec en particulier le 200 mètres et notamment Letsile Tebogo, le Botswanais, champion olympique de la distance, l'un des héros africains des JO. Letsile Tebogo, 21 ans, a changé de dimension cet été. Il entend bien enfoncer le clou à Bruxelles.
Nous serons 2 Africains face à tous les Américains dans ce 200 mètres. On a montré aux Jeux Olympiques qu'on était là, que les sprinteurs africains pouvaient rivaliser avec les meilleurs. J'espère faire une grande course. À Zurich, la semaine dernière, j'ai couru très vite, 19 secondes, 55 centièmes, malgré les conditions qui, avec le vent contraire, n'étaient pas bonnes. Personne ne s'attendait à ce que j'aille aussi vite. Donc oui, là, à Bruxelles, ça pourrait aller encore plus vite, mais je ne veux pas me mettre trop de pression. Il faut laisser les choses se faire.
Voilà, si ça vient, ça vient. Le Botswanais Letsile Tebogo. Hier à Bruxelles, le Jamaïcain Hakim Blake a remporté le 100 mètres en 9,93. Victoire aussi à la perche pour Mondo Duplantis, le Suédois, 6,11 mètres.
Seulement.
Oui, bon, c'est déjà pas mal.
Merci Christophe.
C'est mieux que n'importe qui d'autre.
Il est 14h14 à Paris. Vous le reconnaissez sûrement, l'hymne de Paris 2024, intitulé justement « Parade à deux heures de la grande parade sur les Champs-Élysées, le défilé des athlètes français, des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Et dans RFI Midi, nous recevons l'un de ces athlètes qui remontera les champs tout à l'heure, et pas n'importe lequel. L'une des 35 médailles d'or de la délégation française, le cycliste Joris Daudet, champion olympique en BMX. Bonjour.
Bonjour.
Et merci de répondre à RFI Midi à quelques heures de cette grande parade. Qu'est-ce que vous ressentez d'ailleurs un mois à peu près après votre médaille d'or? Est-ce que vous avez le J au blues?
C'est top. On a pu, c'est vrai que ça a fini depuis un mois, donc on a eu le temps de revenir sur terre. Et puis voilà, c'est aujourd'hui on est à la parade, donc ça va être une belle occasion de célébrer encore une dernière fois et puis de tourner la page et de passer à autre chose, on va dire.
Vous avez envie vraiment de passer à autre chose? Vous n'avez pas envie que cette parenthèse magique se prolonge indéfiniment? Pas de nostalgie pour vous?
Si, on veut toujours, c'est sûr qu'on veut que ça continue et que voilà, le plaisir et la ferveur et tout ça continue. Mais après, forcément, il faut quand même passer à autre chose tout en gardant ça en mémoire et puis voilà, avoir d'autres objectifs et passer à autre chose, on va dire.
On n'a pas le choix, c'est vrai. Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis cette médaille?
Pas grand chose, hein, toujours la même vie. Voilà, je pense qu'avec mes deux camarades, on a fait quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà, c'est sympa de voir la ferveur du public et la joie qu'on a réussi à provoquer au public. Et voilà, je pense que c'est surtout ça la différence, un petit peu plus de reconnaissance.
On vous arrête dans la rue.
Quand on se promène tous les trois, c'est vrai qu'on est
facilement tous les trois. Ouais. Tous les trois, je le précise à nos auditeurs qui n'avaient peut-être pas vécu cette course incroyable, cette finale en BMX, hein, sur un circuit avec trois Français arrivés en tête, avec vous et la médaille d'argent qui se retourne pour voir qui est derrière, si vous avez réalisé ce triplé. Donc vous disiez qu'on vous reconnaissait dans la rue, qu'on vous arrête, on vous dit quoi?
Ouais, exactement. En fait, je pense que quand on est tous les trois ensemble, ils nous reconnaissent rapidement comme le triplé, les trois mousquetaires. Donc c'est vrai qu'on nous arrête souvent, nous féliciter, prendre quelques photos et puis voilà. Mais c'est sympa de pouvoir partager tout ça avec eux et avec le public français qui a été exceptionnel durant ces Jeux Olympiques.
Est-ce qu'il y a un boom pour votre discipline, le BMX? Est-ce qu'on a observé une explosion des achats de vélos?
L'explosion, je sais pas si les achats de vélos ont explosé, mais je sais que les clubs ont reçu beaucoup d'appels, beaucoup de jeunes sont venus essayer le BMX dernièrement, donc voilà, c'est top d'avoir pu montrer le BMX au grand public et voilà, j'espère que ça va donner envie aux gens d'essayer le BMX parce que voilà, c'est un sport fun et assez cool à faire.
Alors, tout à l'heure, là, vous allez défiler sur les Champs-Élysées. Ensuite, le président de la République va vous décorer. Une médaille olympique ou une médaille de la Légion d'honneur, qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous?
Je sais pas. Après, les deux vont ensemble parce que c'est difficile d'avoir la Légion d'honneur sans avoir la médaille d'or. Donc voilà. Mais c'est vrai que ouais, la médaille d'or est quand même la médaille d'or olympique est quand même super spéciale. On rentre dans des catégories, dans un cercle très refermé de champions olympiques. Donc ouais, c'est exceptionnel de pouvoir l'avoir et on en profite un maximum.
Emmanuel Macron hier a annoncé une fête nationale du sport tous les 14 septembre désormais. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, c'est super. Moi, je suis à la parade là et quand je vois la ferveur du public, le sport arrive à nous regrouper et voilà, à oublier tous les soucis qu'on peut avoir. Donc c'est super de pouvoir se regrouper pour faire du sport et de pouvoir célébrer tous les champions français.
Vous savez, après la parade, il y aura, et après la remise de décoration, il y aura un grand concert sur la place de l'Étoile. Est-ce que vous savez qui va chanter ce soir? Parce que le réalisateur de RFI Midi, Yann Eligoin, aimerait beaucoup savoir si Céline Dion sera là.
je sais pas du tout, j'ai aucune information là-dessus. Je sais même pas comment on défile ou quoi que ce soit. Donc je pense que ça sera une surprise pour tout le monde, ouais.
Merci beaucoup, Joris Daudet, d'avoir répondu à nos questions et on suivra sur RFI cette grande parade cet après-midi et ce soir sur les Champs-Élysées.
la buena, appelle-moi Cataleya. Fuck tes chances, sinon tu paieras la cuenta. N'en joue pas les restes, ce soir c'est la fiesta. Tu m'as l'air ok, bon je prends les manettes. J'serai toujours.
Vous l'avez reconnu, hein, ce n'est pas Céline Dion mais Aya Nakamura, l'une des autres stars de la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques Paris 2024, le 26 juillet 2024. Aujourd'hui, nous sommes le 14 septembre, il est 14h21 à Paris.
RFI Midi.
Et on va parler d'un des lacs les plus grands et les plus hauts au monde, à 3800 mètres d'altitude dans la cordillère des Andes, à la frontière entre le Pérou et la Bolivie, le lac Titicaca, qui n'échappe pas au risque de pollution. Alors à La Paz, en Bolivie, des chercheurs ont mis au point une technique simple pour faire des vigies les habitants des rivières qui se jettent dans le lac. Reportage sur place de Nils Sabin.
Comme beaucoup de rivières dans le monde, les cours d'eau qui se jettent dans le lac Titicaca sont affectés par les activités humaines. Pollution plastique, rejets miniers, eaux usées ou élevage à proximité, les causes de la pollution sont nombreuses, mais sans relever sur la qualité de l'eau, impossible de savoir comment évolue cette pollution dans le temps ou en fonction des saisons. C'est ce qui a poussé Carlos Molina et Angela Montesinos de l'Université Mayor de San Andrés à La Paz à élaborer une méthode simple pour mettre en place des relevés réguliers. Angela Montesinos.
L'idée, c'est qu'ils puissent faire des relevés régulièrement, c'est-à-dire au moins une fois par mois. Ça va nous servir pour voir les changements de qualité et agir rapidement s'il y a de la pollution.
La méthode consiste à compter les macro-invertébrés dans un lieu donné, de minuscules crevettes ou des vers d'eau par exemple. Certains sont très sensibles à des changements dans leur habitat, d'autres au contraire sont très tolérants à la pollution de l'eau. En fonction de leur nombre et de leur diversité, il est donc possible de connaître assez précisément l'état d'une rivière à un endroit donné. Le tout avec très peu de matériel, comme l'explique Carlos Molina.
Ce qu'on donne aux techniciens est très basique. Une loupe, une pince à pointe fine et des petits tamis en plastique.
Aujourd'hui, les deux chercheurs proposent une journée de formation à cette méthode. Le public visé, des techniciens travaillant pour des communes proches du lac et des directeurs ou professeurs d'école. L'objectif est qu'une fois formés, ils puissent à leur tour transmettre cette technique. Pendant la partie pratique, ils étudient le cas de l'installation d'une entreprise d'extraction de sable dans une rivière, Angela Montesinos.
Nous leur faisons analyser des relevés en amont et en aval de l'entreprise et ils ont pu voir qu'en aval, il y avait une baisse de qualité.
Parmi les personnes venues assister à la formation se trouve Marco Choquehuanca Quispe, qui est le directeur de l'école de la communauté de Copancara, au bord du lac Titicaca. Pour lui, cette méthode et sa relative simplicité sont très utiles, et pas seulement pour ses élèves.
C'est plus que nécessaire pour connaître la qualité de l'eau dans notre communauté, parce que nous ne savons pas si elle est de bonne qualité ou dangereuse pour la santé.
Avec ce projet, les deux chercheurs espèrent sensibiliser les populations à la protection de l'environnement. Et à partir des données récoltées par ce futur réseau participatif, ils espèrent pouvoir proposer des solutions concrètes aux autorités pour améliorer la qualité de l'eau. Nils Sabin sur les rives du lac Titicaca, RFI.
RFI à Vientiane, 100.5 FM.
32,58 au 24.
La chronique transport international, maintenant avec cette semaine Serge Trigano, le fils de Gilbert Trigano, l'inventeur du Club Med. Serge Trigano est homme d'affaires, observateur et acteur de la vie touristique. Il répond aux questions de Marina Mielzarek.
Serge Trigano, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous en avez fait des choses hein, dans le monde du tourisme, dans le monde du transport, de l'hébergement. Quelle est la transformation pour vous la plus surprenante en matière de transport pour aller en vacances ?
Écoutez, moi, ce que je crois qui a changé le plus la donne, c'est les nouvelles technologies. On réserve ses avions sur son portable et demain, à mon avis, l'intelligence artificielle va accélérer encore ce processus, nous décharger de toute une série de tâches administratives sans grand intérêt pour s'intéresser à l'essentiel, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ma femme, mes enfants, mes copains. Et après, il y a toute une série de changements qui ont bouleversé la donne. Dans les années 50-60, c'était les gros porteurs.
En termes d'aviation.
Dernièrement, c'était les compagnies low cost. Voilà, donc tout ce monde est en train de changer, avec quelquefois des retours un peu en arrière. Par exemple, je crois beaucoup au retour du train, de prendre le temps pour voyager, que le train, en plus, en termes d'environnement, et pour le moment, meilleur que l'avion, donc ça va être une des données. Et comme en plus on va faire des vacances de proximité, le train va nous y aider.
Vous dites ça à vous, mais quand on interroge les responsables du transport ferroviaire, ils disent, mais attendez, en Europe, on n'a pas des rails adaptés de pays en pays, des voies ferrées qui sont vétustes.
Oui, et il manque des trains, centaines de trains pour répondre à la demande. Alors vous avez parfaitement raison, il y a un vrai sujet. Comme tous ces sujets techniques, ça va se régler. Je crois que si l'Europe doit servir à quelque chose, c'est à ce genre de choses. On continuera à prendre l'avion parce que ça fait partie de nos envies et je pense qu'on n'ira plus à New York pour un week-end ou de faire des choses comme ça. Si on y va, on ira aux États-Unis et on y restera 2 ou 3 semaines. Je parle juste de tendances lourdes. Hein. Alors, il y aura toujours des gens qui iront passer un week-end à New York, qui iront 48 heures à Tokyo ou autre.
Vous qui continuez à parcourir le globe, quel est le pays où vous avez vu les transports se transformer le plus?
Je crois que c'est en Asie où ils sont en train de faire une transformation vers tous les modes de fonctionnement électrique. À Shanghai, il n'y a plus un bruit dans les rues parce qu'on n'entend plus les bruits de voitures, ce qui est quand même assez extraordinaire. Les aéroports en Asie sont 1000 fois mieux organisés et équipés que les nôtres. On ne met pas 1h30 à sortir de l'aéroport, à passer la douane, à récupérer les valises.
Vous qui avez très tôt misé sur le continent africain, qu'est-ce que vous conseilleriez à des jeunes entrepreneurs qui vont se lancer dans le transport?
Moi, je crois que le futur continent des vacances, c'est l'Afrique. Si j'avais 40 ans de moins, j'essaierais de travailler avec l'Afrique, que ce soit en implantant des hôtels, en travaillant sur le transport vers l'Afrique pour tout notre univers de l'hospitalité et des voyages.
Serge Trigano, un homme d'expérience et d'espoir pour le futur et l'avenir.
Absolument. Merci à vous, Marina.
Marina Mielzarek pour la chronique Transport International. Il est 14h26 à Paris.
RFI Midi.
Et dans RFI Midi du théâtre, avec le plus célèbre des dramaturges français, Molière. Molière et ses masques, c'est une pièce créée par Simon Falguière en tournée dans toute la France. Dans les villages, comme le faisait Molière avec sa troupe au XVIIe siècle, Muriel Malouf.
Un théâtre populaire pour aller vers un public peu familier avec la scène. Ça a été le souhait au départ de Simon Falguière qui a choisi de raconter la vie de Molière dans sa dernière création. Une pièce créée dans son lieu, un moulin et une ancienne filature en Normandie que l'auteur, metteur en scène, rénove avec ses compagnons de route et des planches.
Le désir, il est né d'abord du lieu, du moulin de l'Hydre, et d'une volonté ferme de pouvoir tourner en itinérance dans les villages autour d'ici. Et je cherchais un sujet, et je voulais le sujet le plus ouvert possible, pour que les gens aient envie de venir voir la pièce, si on arrive dans un village où il n'y a pas de théâtre, où on n'a pas l'habitude d'aller au théâtre. Et du coup, quel sujet plus évident que Molière? Quand je vais faire des cours dans des collèges ou dans des écoles primaires et que je demande « qu'est-ce que vous connaissez du théâtre ?», les enfants, même s'ils ne connaissent pas, ils connaissent Molière, ils connaissent le nom de Molière. Et du coup, j'ai pris Molière comme un prétexte pour parler aussi de nous, de la troupe, de notre aventure, de l'aventure d'itinérance, de l'aventure d'un théâtre des campagnes un peu.
Molière, quelle est donc cette colère que je lis dans vos yeux ?
La colère d'être reconnu pour ce que je ne reconnais pas.
Ne retenez pas vos mots, l'art du théâtre m'intéresse.
Molière, le grand auteur, chef de troupe, est joué avec brio par la comédienne Anne Duverneuil. Il voit défiler sa vie avec ses succès, défaites et parfois compromissions, alors que les 5 autres comédiens, tout aussi excellents, alternent les rôles.
Ça ne m'intéressait pas de faire une reconstitution d'époque. Ce qui m'intéressait, c'était d'utiliser la figure de Molière pour nous faire rire, puisque je voulais faire une comédie, et en même temps pour nous interroger sur notre temps, à l'endroit même politique, puisqu'il y a des endroits de miroir entre le 17e et nous. Le 17e a été un moment où il y a eu un grand changement climatique, terrible, ce qu'on appelait le mini-âge glaciaire, et qui a commencé au 15e, et le 17e est la pire période, d'où des famines, des épidémies, et la présence de la guerre et de l'autoritarisme qui monte. Et dans tout ça, un être qui écrit des comédies pour essayer de peindre les vices de son temps.
Théâtre de tréteaux comme au XVIIe siècle, une scène surélevée en bois, quelques rideaux et le tour est joué. Molière et ses masques prend la route et s'arrête dans les villages de la Normandie tout ce mois de septembre pour faire rire et réfléchir comme dans toute comédie réussie.
Achevez-moi ! Nous sommes bientôt arrivés au bout !
Que se passe-t-il après cela ?
Ta santé est fragile. Tu deviens un grand artisan de comédie, tu mets loin de toi les combats.
Et les pièces restent bonnes.
Molière et ses masques de Simon Falguière. On arrive à la fin de cette première demi-heure d'RFI Midi. Restez avec nous dans quelques secondes, ce sera Afrique Midi.
RFI à Yamoussoukro, 96 FM.